Kompass. Die Schweiz hat mehr als vier Sprachen.
So, so, gloss, so, so, da.
Eloé.
Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs. Sika Naomi, Josué Marouli, Esteban Gagno, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selom Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir le Togo, heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre radio, Radio Canal K et dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique. Ce programme est également synchronisé sur Radio Avoletti, FM Liberté et Radio Deniguan. 13 janvier 1963, 13 janvier 2018, c'est quand 5 ans d'obscurité sur le Togo que rappelle cet événement dans la vie politique togolaise. Le Togo serait-il devenu un no man's land? C'est la grande question qu'on se pose face à l'insécurité grandissante qu'occasionnent les agissements de milices que malheureusement le gouvernement reconnaît et baptise sans vergogne groupe d'autodéfense. Qui sont ces miliciens et pour qui roulent-ils? Nous en parlerons avec nos invités en ligne depuis la France et les États-Unis. À mes auditeurs, mais en attendant, nous vous proposons notre éditorial.
So gloss, so so do.
Eloé.
Amis auditeurs, bonsoir. 13 janvier 1963, 13 janvier 2018. C'est quand 5 ans d'obscurité sur le Togo après l'assassinat du père de la nation et père de l'indépendance, Sylvanus Olympio. La dictature de Nyasimwe résiste tant ou tant à la tempête peut-être pas trop forte pour la déraciner et faire place à la démocratie et l'état de droit. À bien voir les choses, on peut assimiler cette résistance de Faure Gnassingbé à une guerre entre les yeux et le sommeil. Le sommeil, la lutte du peuple, les yeux, la chute de Faure Gnassingbé et son régime. Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Elle n'est pas forte qu'on l'imagine. Une question. Pourquoi une telle résistance face aux aspirations profondes d'un peuple qui s'est levé, un peuple debout qui crie au secours? Malheureusement, la communauté internationale reste sourde à cet appel de détresse, l'appel d'un peuple opprimé dans le sang, martyrisé, tyrannisé, blessé, tué, chassé comme un gibier, tabassé comme un serpent. Nul n'a le droit de faiblir, car, dit-on, aucune dictature, aussi puissante qu'elle soit, ne peut venir à bout d'un peuple debout. Oui, tout peuple debout vient à bout de n'importe quel dictateur. La bataille est rude, très rude, mais il faut résister. Du peuple à la diaspora, passant par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, nul n'a le droit de faiblir. Entre les lignes et dans les faits et gestes, il est facile de lire les flèches du RPT Unir envoyées via de pseudo-opposants, de journalistes alimentaires, des militaires, des milices, des voyous et bandits de grand chemin. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Chers patriotes togolais, si Akara, bien molesté, Ricardo Aguzu et ses amis, tous victimes des actions militaires et miliciennes, restent debout, si à Mango, décimé, tué, chassé, poursuivi, assiégé, les populations restent debout avec des grains de sable qui esquissent des pas de manifestation, si à Bafilo et Sokolé, les populations passent le quotidien entre les bruits de bottes et le crépissement des armes, mais restent debout et déterminés, ce n'est pas la coalition qui va fléchir. Nous disons non. Non et non à la division, à la dislocation, non à l'instrumentalisation, non à la mauvaise foi, non aux petits calculs politiciens qui auront tendance à casser le rythme de cette force coalisée qui mène la danse depuis le lendemain du 19 août 2017 jusqu'à ce jour sans trembler ni fléchir. Leader politique, membre de la coalition des 14, le peuple togolais a le regard tourné vers vous. Le peuple togolais veille au grain. Travaillez, prenez de la peine. Donnez-vous beaucoup de courage et en toute chose, pensez à ce peuple qui paye de lourds tributs depuis plus de 55 ans. Aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de l'intérêt d'un peuple opprimé qui s'est levé pour arracher sa souveraineté et liberté confisquée. La victoire est au bout des efforts. Et pour paraphraser quelques lignes de notre hymne national, Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Grand Dieu, toi seul, nous as exaltés, du Togo pour la prospérité. Togolais, viens, bâtissons la cité. La lutte populaire est invincible. Togolais, de tous bords, ta flamme de mobilisation rallumée ne doit en aucun cas s'éteindre. Novio, à vous l'été. Coucou les tétenta.
Soso glosso zando, elole. Soso glosso zando, elole. A big beto, wanane mulo. Soso glosso mi bea, elozalado. Soso glosso mi bea, elozalado.
Ahoche, ahoche, ahoche.
radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.
Merci de nous être fidèles. Avant de prendre nos invités, accueillons d'abord en ligne depuis Lomé notre correspondant Rodrigue Ayego qui nous fera le briefing sur l'actualité politique au Togo. Rodrigue Ayego, bonsoir.
Bonsoir Sylvain, bonsoir fidèles auditeurs et internautes de l'émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K. C'est toujours un plaisir pour nous de savoir nombreux des compatriotes et citoyens du monde à l'écoute de ce programme qui décrypte et analyse l'actualité sur le continent pour le monde.
Eh bien, le nouveau patron de la Haute Autorité et de l'audiovisuel de la communication HAC est connu depuis le 11 janvier. Rodrigue Ayego, vous vous interrogez sur la mission et la durée du mandat du président.
Effectivement, Sylvain, comme vous pouvez le savoir, le poste du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC n'est plus vacant. Le fauteuil est officiellement occupé depuis le 11 janvier dernier par Willy Brond Telou Pitalounani, précédemment directeur général de Radio Lomé. L'homme a été plébiscité à ce poste par ses collègues au cours d'une séance extraordinaire dédiée à l'élection du président de l'institution. Il remplace ainsi le précédent président, Pitang Tchala, décédé le 19 septembre 2017 à la suite d'un malaise. Nommé membre de la HAC le 19 décembre 2017 par décret présidentiel, le nouveau président de la HAC a la lourde responsabilité de conduire la mission de l'institution, celle de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse et de tout moyen de communication dans le respect de la loi, et aussi de veiller au respect de la déontologie en matière d'information et d'accès équitable des partis politiques aux médias. Si cette nomination suivie d'élection de Willy Brond Telou Pitalounani est la bienvenue, surtout avec son parcours professionnel qui justifierait son choix, notamment journaliste, officier de l'Ordre national du mérite, directeur général de la mère des radiodiffusions du Togo, elle coïncide à en croire le communiqué du gouvernement à l'issue du dernier Conseil des ministres avec l'ouverture officielle d'une problématique période électorale. Ce qui suscite donc des interrogations au sein de la masse, à savoir de façon qui prête à ironie, quelle radio ou quelle télévision serait fermée par le Newcom. Ses prédécesseurs ayant chacun, en ce qui les concerne, rempli un agenda caché de fermeture de radio et télévision privée du Togo, à savoir Radio X Solaire et Radio Légende FM à l'actif de Feu Kokou Biosé Tozun, Radio City FM et Télévision LCF, œuvre de Pitang Tchala. Cette interrogation qui peut avoir d'ironie pose une problématique qui intéresse bon nombre d'observateurs, surtout dans le contexte actuel où le pays est secoué depuis plus de 5 mois par des mouvements de contestation du règne d'Enyasimbe par le peuple togolais. Le contexte de la venue de Willy Brond Telou Pitalounani coïncide également avec des mouvements d'humeur dans 2 secteurs clés de la société, à savoir l'éducation et la santé. Les médias sont donc à l'œuvre. Comme on le sait, c'est une période propice où la HAC fait planer l'épée de Damoclès au-dessus des médias privés surtout qui assimilent la HAC à un gendarme derrière eux. Le sentiment est surtout partagé et pris comme inquiétude majeure par les journaux critiques vis-à-vis de la gouvernance atypique du régime cinquantenaire. Parlant de la durée du mandat, Sylvain, j'avoue que les Togolais s'en préoccupent vraiment, vu que les 2 prédécesseurs de Willy Brond Telou Pitalounani n'ont pas pu terminer leur mandat. Ils ont été chacun, selon son histoire, fauchés par la mort en plein mandat. Ce qui d'ailleurs amène certains compatriotes à dire que le fauteuil du président de la HAC serait hanté par l'esprit de mort subite. Qu'en sera-t-il donc? C'est le 8 ainsi. Rappelons que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC est composée de 9 membres, dont 4 désignés par le président de la République et 5 élus par l'Assemblée nationale. Ils sont irrévocables. Leur mandat est de 5 ans renouvelable.
Rodrigue Ayego, au moment où le peuple togolais conteste le pouvoir de Faure Gnassingbé, le régime se prépare à aller à des élections que tu qualifies de problématiques. Pourquoi cette qualification, Rodrigue Ayego?
Tout le monde entier sait que le Togo est debout contre le règne d'Enyasimbe. Depuis le 19 août 2017, la contestation a gagné en tension. Il n'y a pas une seule semaine où des manifestations n'ont lieu pour exiger le retour à la constitution de 1992, le vote de la diaspora, les réformes électorales entre autres. Face à la machine de répression du RPT Unir, le bilan s'alourdit chaque jour que Dieu fait. Une 20aine de morts majoritairement par balle, des centaines de blessés majoritairement par balles et armes blanches, œuvre de milices reconnues groupes d'autodéfense par le gouvernement togolais, des portés disparus et réfugiés politiques. La question que l'on se pose est celle de savoir pourquoi sommes-nous arrivés là. Si nous en sommes là, c'est parce que le peuple togolais s'est rendu compte de la volonté de Faure Gnassingbé, généreusement baptisé Tshalevi Simple, de s'éterniser au pouvoir. Les élections n'ayant plus de sens au Togo, surtout avec ces phénomènes qui marquent le temps, notamment des gendarmes qui attaquent un centre de vote, le pulvérisent de gaz lacrymogène pour disperser les votants et emportent en courant les urnes. Sans passer sous silence les différents scandales de publication de résultats frauduleux par les différents présidents qui se succèdent à la tête de la très controversée Commission électorale nationale indépendante CENI. Malheureusement, face à toutes ces contestations qui ne faiblissent pas, malgré les exactions militaires et l'œuvre des milices, le gouvernement adopte mercredi en Conseil des ministres un décret qui fixe à 38 le nombre des commissions électorales locales CELI et leurs ressorts territoriaux, conformément aux dispositions prévues par le très contesté code électoral. Le régime s'apprête ainsi à traduire dans les faits l'annonce des joutes électorales par le président Faure Gnassingbé dans son discours très controversé à la Nation le 3 janvier dernier. Dans la foulée, la CENI annonce l'entame dès ce mois de janvier de la révision des listes électorales. De tout ce qui précède, l'on se demande où allons-nous. Puisque la coalition des 14 partis politiques qui conduit les manifestations met beaucoup plus l'accent sur le dialogue qui va déboucher sur une période transitoire au cours de laquelle toutes les réformes seront opérées, à savoir les réformes constitutionnelles parlant de la limitation du mandat du président de la République avec l'inscription de la fameuse ligne conflictuelle, en aucun cas nul ne peut faire plus de deux mandats, les réformes institutionnelles et celles électorales, sans oublier l'armée, la justice et l'administration publique, toutes inféodées au pouvoir. Choisir donc d'aller à des élections dans un contexte conflictuel, c'est donc foncer droit dans un mur, comme le dit si bien un des leaders de partis politiques de l'opposition, membre de la coalition des 14. De vives inquiétudes se soulèvent donc, appelant le pouvoir à entendre raison pour éviter au Togo le spectre de la violence, terrain sur lequel le pouvoir a toujours surfé pour arroser le sol togolais du sang innocent.
Togolaise et Togolais de la diaspora, le moment décisif d'apporter notre appui déterminant au peuple togolais pour bouter définitivement Faure Gnassingbé dehors est arrivé. La coalition de la diaspora pour l'alternance et la démocratie saisit l'urgence du moment et dans la continuité de l'esprit de Paris vous propose les 2, 3 et 4 mars prochains la tenue des grandes assises de la diaspora pour mettre en synergie nos forces et capacités. La coalition de la diaspora pour l'alternance et la démocratie Kodi Togo invite les diasporas des Togolais des différents pays ou villes du monde désireux d'accueillir les assises de soumettre leur candidature sur le site de koditogo.org au plus tard le 24 janvier 2018. Tous les Togolaises et Togolais, les organisations, les mouvements et les personnes ressources de la diaspora qui luttent pour l'alternance et la démocratie au Togo sont vivement conviés aux assises. Pour toute information ou suggestion, visitez le site www.koditogo.org ou envoyez un courriel à info@koditogo.org. Togolais, viens, bâtissons la cité, vaincrons ou mourons, mais dans la dignité. 50 ans, ça suffit. Faure Gnassingbé doit maintenant partir, et maintenant, la victoire appartient au peuple togolais souverain. Togo, debout, à vous l'été. Coucou les tétenta.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Et Merci de votre fidélité sur Radio Canal K, Radio Avoleti, FM Liberté, Radio Dénigma. Et pour commenter et analyser la crise sociopolitique au Togo, nous accueillons tout de suite notre premier invité, Jonas Komlan-Silandin. Il est auteur du livre Togo, démocratie impossible. Jonas Komlan-Silandin, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis la région parisienne.
Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Canal K et de Radio Avoleti, à qui je profite de cette occasion pour souhaiter une belle et fructueuse année 2018.
Et voilà, 13 janvier 1963, 13 janvier 2018, 55 ans d'obscurité sur le Togo. Jonas Komlan-Silandin, que vous rappelle cet événement dans la vie politique togolaise?
Le 13 janvier 1963, je crois qu'on a assassiné un homme, l'un des pères de l'indépendance. Mais ce jour-là, on nous a amputé d'une partie de notre dignité et infligé à notre nation un traumatisme dont elle peine à se remettre. La désorientation que cet événement a provoquée s'est fortement aggravée avec le temps, notamment à travers les décennies de gouvernance autocratique et prévaricatrice. Avec le recul, je me rends compte que dans la réalité des faits, le Togo est progressivement revenu dans la même situation où il était avant son indépendance. Et pire que les colons étrangers qui ont confisquer nos libertés et soumis nos parents à des exactions, l'impérialisme domestique que certains de nos compatriotes imposent à notre pays prive notre nation de sa souveraineté et notre peuple de sa dignité. Je crois que nous devrions regarder la crise sous un autre angle, la crise que nous traversons aujourd'hui. On doit l'observer sous un autre angle que celui d'une crise inhérente à la gestation d'une démocratie. Pour moi, c'est une crise identitaire. Au fond, nous voulons être autre chose que ce à quoi on nous réduit. Nous voulons être des femmes et des hommes debout, fiers et dignes. Nous voulons vivre dans une société où le travail et la liberté sont des valeurs socles pour vivre ensemble. De mon point de vue, et par rapport au drame, à la tragédie du 13 janvier, il nous faut prendre conscience du fait que notre combat est en réalité le combat pour la restauration de l'indépendance totale du Togo. Et aussi un combat pour le recouvrement de notre dignité dont nous avons perdu une partie ce jour-là. Alors, ce n'est pas que de la rhétorique. Ce changement de point de vue éveille en soi, en nous, et ça a été mon cas personnel, je pense que ça peut être aussi le cas de beaucoup d'entre nous, ce changement de point de vue éveille une détermination plus grande et fait appel à des ressources jusque-là insoupçonnées. Je le dis parce que imaginez que nous avons aujourd'hui exactement pour mission de faire comme nos grands-parents un combat pour l'indépendance du Togo, eh bien c'est quelque chose qui nous rend plus farouches. Et de ce point de vue-là, cela indique la réorientation de la lutte, le sens dans lequel il faut réorienter la lutte. Souvenez-vous de ce qui s'est passé les 24 et 25 janvier 1933 à Lomé. Je veux parler de la révolte des femmes. C'est un événement majeur de la lutte pour l'indépendance. Je pense que ce que je veux dire, c'est que il nous faut nous replacer dans une perspective beaucoup plus historique beaucoup plus symbolique que ce qui se passe aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, il nous faut nous inspirer de ce qui s'est passé dans l'histoire de notre pays. Et c'est là où nous allons trouver des ressources, c'est là où nous allons trouver de la signification, c'est là où nous allons trouver l'ardeur et le courage, la résonance en écho aux efforts et aux combats de nos prédécesseurs pour pouvoir mener cette lutte-là. Nous avons franchi un autre cap. Et en ce jour, 13 janvier, en ayant une pensée recueillie pour les pères de l'indépendance, notamment le plus illustre d'entre eux, le président Sylvanus Olympio, je voudrais dire que c'est peut-être un message fort de se dire qu'en ce début d'année et en ce jour, nous prenons l'engagement de continuer la lutte jusqu'à la restauration de l'indépendance totale du Togo. Ensuite, pour l'avènement, l'achèvement de la démocratie, l'achèvement c'est bien, c'est un grand mot parce qu'on ne parachève jamais la démocratie, mais pour rendre la démocratie à un niveau d'irréversibilité et construire par la suite un multipartisme serein et le développement de notre peuple.
Tout à fait, Jonas Komlacilandé, en tout cas, le père de l'indépendance l'a dit, hein, Sylvanus Olympio l'a dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient et les Togolais attendent ce jour qui peine quand même à arriver. Alors, comment, Jonas Siliadin, comment réagissez vos discours prononcés le 3 janvier dernier par le chef de l'État, Fonia Simbé?
C'est un message à contre-temps et à contre-courant, en plus avec des contre-vérités. D'entrée, le président laisse entendre que le Togo a accompli de grandes choses en 2017. C'est tout simplement la pire année de son troisième mandat. 5 mois de contestation sur l'ensemble du territoire, se traduisant par des manifestations, drainant une grande majorité des Togolais. Des sommets internationaux prévus à Lomé qui sont annulés. 25% de pertes en recettes pour le budget de l'État. Vous prenez les activités du port autonome de Lomé, qui sont en décroissance continue, maintenue. Le programme SCAP, qui était présenté comme la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, lancé en 2013, et qui se termine avec un bilan plus que mitigé, pour preuve le climat des affaires, qui s'est sérieusement détérioré dans notre pays. Dans le classement Doing Business 2018 de la Banque mondiale, le Togo de Fort est passé de 154e à la 156e place sur 190 pays. Dans le même temps, son modèle, le Rwanda de Kagame, est dans le top 50 des pays dans lesquels il est, le climat des affaires est favorable et propice. La croissance, qui sera sans doute en dessous de 5% cette année, si ce sont là les grandes choses que le Togo a accompli en 2017, alors chacun peut apprécier la lucidité et la bonne foi de notre président bien-aimé. Par ailleurs, et c'est d'ailleurs le plus important, dans son message, il a essayé de minimiser la portée de la crise dans le pays, mais ça, c'est un signal précieux de son affectation et du choc reçu par le régime. En fait, fort tente de se rassurer, mais on ne se rassure que lorsqu'on est inquiet. Et il l'est, en réalité. Pour vous situer, je vous fais une analyse très rapide. En fait, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Faure est passé par 2 phases et en est à la 3e. La première phase a été la surprise. En s'emparant du pouvoir le 5 février avec la complicité, 5 février 2005, avec la complicité d'un carteron d'officier affidé, il avait sous-estimé la réaction du peuple togolais. Et cela l'a contraint à commettre beaucoup de bavures, mais à faire machine arrière et à repenser sa stratégie. Quand il est revenu aux affaires au détour de la mascarade d'élection qui a suivi, il est entré dans la phase de démarcation et de blanchiment de réputation. Et la volonté était de se faire aimer du peuple en apparaissant comme un dirigeant moderne avec des règles de gouvernance innovantes. La phrase emblématique de cette période a été le « lui c'est lui et moi c'est moi » à propos de son père. Et il y a eu un chef de gouvernement, un premier ministre, qui l'a beaucoup aidé dans cette phase. C'est Gilbert Fossou-Rongbo. Sous sa houlette, le gouvernement a beaucoup travaillé. Le gouvernement a eu des positionnements, des engagements techniques très forts. Et donc a engrangé des résultats très encourageants en ce moment-là. Et grâce aux compétences de son premier ministre, Faure a réussi un moment à donner l'impression ou à faire l'illusion, notamment aux yeux de la communauté internationale, en se faisant passer pour un chef d'État, un président légitime, fréquentable, opérant un miracle économique, résolument engagé dans la réforme de son pays, et de ce fait-là, qui a le soutien de ses concitoyens. C'est d'ailleurs en ce moment que la plupart des relations ont été normalisées avec le Togo. Mais l'appétit du pouvoir s'était installé et le naturel est revenu très vite au galop. Et sous le masque de président nouveau style qu'il affichait, en fait le dictateur a bien mûri et commencé à se faire de plus en plus remarquer et démasquer. Alors, depuis 2017, la vague de contestation avec l'irruption de Tipi Achadam l'a mis à nu et a révélé le vrai visage de son régime. Et c'est là où il a compris que désormais il ne pourra duper personne, il ne pourra plus duper qui que ce soit sur le fait qu'il est un potentat qui a pour seule ambition de s'accrocher au pouvoir. Et je crois que cela l'a profondément affecté dans son ego. Il faut ne pas gêner d'être un dictateur en soi. Mais il n'a pas envie que ça se sache. Il a envie que ça passe pour qu'il passe plutôt pour un président lisse, policé, voilà. Souvenez-vous de ses propos à Thévier, où il oppose l'image de dictateur sanguinaire que les médias sociaux révèlent de lui à celle d'un homme simple dont il a toujours voulu s'affubler. Vous voyez, et à l'opposé de la démarcation de ses débuts, je fais référence à l'interview dans Jeune Afrique, il fait désormais l'éloge de son père et qui est en même temps son prédécesseur. Or, vous savez, quand vous êtes pris en flagrant délit de dictature ou de tout autre acte peu louable, peu assumable, vous avez deux options. Soit vous faites preuve d'humilité et de sagesse, ce qui vous conduit à poser des actes de contrition, à réparer ce qui peut l'être et à changer positivement de comportement. Soit vous faites preuve de mauvaise foi et vous essayez d'user de la force, de l'intimidation, quitte à assumer, dans le cas de notre président, des contradictions du type à donner des leçons sur le suffrage du peuple souverain quand on a pris le pouvoir après avoir marché sur la Constitution. Pour moi, de toute manière, vous avez bien vu que le président n'était pas à l'aise avec le discours. Sans vouloir faire de la psychanalyse de base, il y a un phénomène que l'on appelle la rationalisation. Lorsque vous êtes confronté à une situation ou amené à poser un acte qui n'est pas bien, dont vous savez qu'il n'est pas bien, il y a une petite voix intérieure qui est en réalité votre conscience et qui vous fait un reproche, qui vous reproche l'acte que vous avez commis ou que vous vous apprêtez à commettre. Et cette voix ne se tait que si vous trouvez une raison valable pour justifier votre acte. Faure n'est pas en cohérence avec sa conscience. Il n'a pas pu opérer la rationalisation par rapport à tout ce qui se passe et à tout ce qu'il doit engager. Ce qui explique qu'il était en décalage par rapport à ses propos et qu'il n'habitait pas son discours. Beaucoup d'observateurs l'ont remarqué. En un mot, en fait, il sait qu'il n'agit pas bien et que les actes et les propos tenus en son nom et sous son régime sont inacceptables. Il ne peut pas en être autrement. Lorsque vous êtes à la tête d'un pays, que les gens pendant 5 mois manifestent, qu'il y a des morts, que des victimes de tout bord sont exposées comme ça à la face du monde, que en une journée, en plein soleil, des gens se constituent en milice, parallèlement à la force, à la police, aux forces de l'ordre, qu'ils agissent à visage découvert dans des voitures flambant neuves, qui rentrent dans des maisons, qui commettent des exactions et tout, et que le ministre de la sécurité, que toutes les forces chargées de protéger la sécurité, de garantir la sécurité des Togolais, disent qu'ils ne savent pas d'où viennent ces gens, qu'ils ne savent pas où ils sont allés après avoir posé ces actes-là. Que vous le voyez ou non, vous êtes gêné, votre conscience vous le dit. C'est des actes inacceptables. Il sait que ces actes sont inacceptables. Il n'est pas, c'est quand même quelqu'un qui est intelligent. Il sait. Donc, il mesure la fracture qu'il y a désormais entre lui et les Togolais, compte tenu de ses actes, compte tenu de ses comportements. Vous avez peut-être remarqué qu'il dit tout au long du discours, chers compatriotes, sans l'adjectif possessif. L'adjectif possessif, mais il ne l'a utilisé qu'à la toute fin de son discours, parce qu'au fond de lui, il sait que nous ne sommes plus ses chers compatriotes. Ouais. Donc il sait ce qu'il fait, et ce discours est une occasion manquée, parce qu'il aurait pu intervenir plus tôt, et aurait pu permettre d'envisager un certain nombre de choses. Ce n'est pas l'occasion du nouvel an que d'aborder ces sujets, et donc il a choisi de les minimiser et de faire comme si tout allait bien. En somme, ça rappelle un peu le Titanic qui fonçait droit sur l'iceberg, et que pendant ce temps, le film Titanic, hein, pendant ce temps, les gens jouaient de la musique sur le pont, les gens s'amusaient. Et ce n'est pas si loin que ça de la réalité togolaise. Je parlais tantôt de 1933. Lorsque les femmes ont manifesté à Lomé en 1933, l'administration coloniale n'avait pas pris la bonne mesure de la chose et avait qualifié ces événements de petits incidents. Et pourtant, c'est un des faits majeurs déterminants dans l'avancée de la lutte pour l'indépendance au Togo.
Jonas Komla-Siladien, vous avez été long, mais on peut vous comprendre. La question mérite d'être bien décortiquée, car pour bon nombre de Togolais, c'est un discours vaseux, un discours qui fâche. Eh bien, l'année 2017 est marquée par des manifestations à travers lesquelles le peuple togolais exige fondamentalement le départ de Faure Gnassingbé. Bilan, plusieurs dizaines de morts par balle, de centaines de blessés majoritairement par balle, plus d'une centaine de prisonniers, plusieurs centaines de réfugiés. Et malheureusement, Faure Gnassingbé tient toujours. Et là, on se pose la question, jusqu'où peut-il aller, selon vous?
Difficile de prédire jusqu'où Faure peut aller dans son refus de regarder la réalité en face, dans sa cécité politique. On peut constater qu'il n'a pas l'intention, en tout cas sur la base de ces dernières déclarations, qu'il n'a pas l'intention de fléchir un seul instant. Mais, vous voyez, il y a ce que les hommes peuvent voir, prévoir, comprendre, faire ou défaire. Et puis, il y a des choses qui relèvent des forces méta-humaines, qui laissent les portes de l'aléa toutes ouvertes. Personnellement, je suis de nature optimiste. Et j'aurais envie de vous dire que tôt ou tard, tout se passera bien. Mais il faut qu'on soit réaliste. Nous avons en face de nous des gens qui sont déterminés à utiliser tous les moyens, et Dieu seul sait s'ils en ont, pour conserver le pouvoir, pour faire en sorte que rien ne change, rien ne bouge. Mais en réalité, avant d'engager un combat, il n'est pas nécessaire d'être sûr de l'issue victorieuse ou pas avant de l'engager. Le motif du combat, lui seul suffit. la justesse de la cause que nous défendons seule justifie, suffit à mener un combat. Est-ce qu'aujourd'hui il est juste, il est nécessaire, il est important, il est légitime de se battre pour le changement et le progrès démocratique au Togo? La réponse est oui. À partir de ce moment, il faut continuer à se battre. Il faut continuer à nous battre. Il faut maintenir notre engagement. La réalité, c'est que l'histoire, malheureusement, n'est pas un film où le bien triomphe systématiquement du mal. L'histoire est faite d'actes gratuits, des triomphes désespérants et parfois de happy end. Ainsi, vous avez l'exemple de la Syrie, du Burundi, de la RDC. Mais nous avons aussi l'exemple de la Tunisie, l'exemple du Burkina Faso et celui de la Gambie. Donc, rien ne peut être écrit d'avance. Ce qui importe, c'est donc notre détermination et notre engagement pour la cause qui nous est chère. Je sais trois choses, et je les répète souvent. Même les vaincus ont l'honneur, gardent l'honneur, conservent l'honneur d'avoir combattu pour la cause en laquelle ils croient, ou ils ont cru. Même les vaincus ont cet honneur-là. La deuxième chose, c'est que la plupart des victoires se gagnent, s'obtiennent au terme de combats acharnés et au bout du glaive de la vaillance. Et troisième chose, un peuple déterminé est généralement invincible. Donc il faut continuer la lutte. Jusqu'où fort peut aller, on ne peut pas le savoir aujourd'hui. Quels sont ses moyens, quels sont ses alliés, comment ces choses vont évoluer, personne ne peut l'écrire. Qui peut nous venir en aide demain? D'où viendra nos adjuvants? D'où viendront nos adjuvants, pardon? D'où viendra le secours, la force décisive qui va nous aider? Aujourd'hui, 13 janvier 2018, personne ne peut le dire. Mais dans quelques mois, ça nous paraîtra tellement simple. On se disait, mais on ne l'avait pas vu venir celle-là. On n'a pas vu venir notre détermination jusqu'à ce point-là. Vous prenez la République démocratique du Congo. L'Église catholique est devenue le porte-flambeau de la lutte. Et les prélats, qui généralement sont tenus à un devoir de réserve par rapport à tout ce qui est politique, tout ce qui est séculier, tout ça, sont aujourd'hui déterminés, mobilisés derrière Monseigneur Moussango, et qui disent que quoi qu'il arrive, non seulement ils soutiennent le cardinal, mais ils soutiennent aussi le peuple congolais. Dans leur communiqué, ils ont dit une chose très intéressante. Ils ont invité les Congolais à se lever et à rester debout et vigilants et à prendre en charge leur destin. C'est un précieux soutien. Et on ne sait jamais d'où viennent les soutiens. Il faut continuer. Il faut observer le pouvoir. Il faut rester vigilant. On verra jusqu'où ça va nous amener. Mais dans tous les cas, on ne peut pas le prédire aujourd'hui, et ça ne veut pas dire que parce qu'on ne peut pas le prédire, que tout est compromis, ou qu'il faille attendre d'être sûr que tout est favorable pour continuer le combat. C'est très important cela. Un peuple déterminé est généralement invincible.
En tout cas, le peuple togolais est debout à jamais. Je n'ai comme la Siladin. Certains observateurs estiment que le peuple togolais a presque tout donné. Ces mêmes observateurs affirment que si Faure Gnassingbé n'a pas le soutien de l'armée et des multinationales européennes, notamment françaises et allemandes, il devrait tomber depuis longtemps. Est-ce que vous êtes du même avis?
Oui, c'est sûr que le régime tient grâce à ses soutiens au Togo, principalement au sein du commandement de l'armée, mais aussi ses soutiens à l'étranger. Et il existe des liens historiques plus ou moins occultes entre certains milieux français et le régime, et dont les origines remontent à la journée tragique du 13 janvier 1963. La dernière fois que je suis allé au Togo, J'ai échangé avec beaucoup de personnes, enfin beaucoup, non, quelques personnes, parce qu'il n'en reste plus beaucoup, qui sont des acteurs clés, ou des témoins, on va dire, pas des acteurs, mais des témoins clés, proches de ce qui s'est passé le 13 janvier, qui ont fait des recherches pour certains, qui ont écrit pour d'autres, qui ont eu des confidences pour certains d'entre eux et tout ça. Et par rapport à tout cela, il apparaît que véritablement, derrière ce qui s'est passé le 13 janvier, il y avait des personnes, des ressortissants étrangères, notamment français. Des ressortissants de pays d'origine étrangère et notamment des Français, et que, bon, on pose souvent la question à qui profite le crime ou à qui a profité le crime. Bon, c'est des dossiers qu'on pourra un jour espérer ouvrir, dont on pourra peut-être débattre sereinement. Mais en attendant, c'est vrai que compte tenu de ces imbrications, de ces et des services rendus à gauche et à droite, et des redevabilités croisées, on va dire, eh bien, le régime arrive à tenir. Mais il faut aussi savoir qu'à travers le monde, il y a de nombreux amis de la liberté qui soutiennent le combat pour la dignité des peuples. C'est à nous qu'il revient de continuer à mobiliser nos alliés, à redoubler d'initiatives, notamment au sein de la diaspora. Maintenant que le roi est nu, on revient de continuer à nous mobiliser pour obtenir le progrès attendu. Quant aux multinationales, c'est très important. Les multinationales n'ont que des intérêts à défendre. Ils ont du business, ils veulent faire du business, c'est leurs intérêts qu'ils défendent. Nous devons les rassurer, en ce sens que, quoi qu'il advienne, et surtout dans le cadre d'un Togo à nouveau libre et démocratique, tous ceux qui veulent faire du business trouveront un climat propice et la bienveillance de la part des dirigeants. Je disais tout à l'heure que le classement Doing Business du Togo s'est détérioré. C'est lié à un certain nombre de dysfonctionnements dont se plaignent aussi des multinationales, dont se plaignent des gens qui font du business, même s'il y a d'autres qui sont mieux lotis. Dans tous les cas, il est important d'insister sur le fait que nos propos et nos postures doivent veiller à rassurer, parce que c'est la réalité, les milieux d'affaires. Il ne doit pas être question de projeter à des expropriations ou à des confiscations, comme on a pu voir dans d'autres pays, de quelque nature. Et tous les engagements qui ont été pris par les gouvernements précédents doivent, en principe, pouvoir être tenus et respectés. Voilà, c'est très important. Même si le régime croit aujourd'hui avoir des soutiens extérieurs, c'est à nous d'être plus imaginatifs et de construire une stratégie et un discours qui rassure et qui mobilise nos alliés, qui les détermine à nous aider beaucoup plus.
Eh bien, dans cette crise politique, le pouvoir assimile la lutte populaire en cours au pays à l'extérieur au terrorisme. Jonas Komlacy Ladin, comprenez-vous cette approche du régime?
Soit le président Faure a raison. Il y a des réseaux terroristes au Togo, et là, ce serait un aveu d'échec. Parce que ces 3 dernières années, le régime s'est agité dans tous les sens, en faisant grand bruit de sa croisade contre le terrorisme et l'insécurité. Il a procédé à des réformes au sein de la gouvernance militaire pour cela. L'année dernière, il a dépensé des fortunes pour organiser un sommet qui a privé nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs de 2 semaines de scolarité. Si après tout cela, il y a encore des terroristes qui agissent au Togo, c'est donc la preuve que le gouvernement brasse du vent. Soit il n'y a pas de terroristes au Togo. Et dans ce cas, c'est une malheureuse tentative de manipulation de l'opinion internationale. Une tentative qui a fait long feu, car les institutions qui s'occupent du terrorisme à l'échelle internationale sont des structures sérieuses, avec des méthodes d'investigation et des traitements des informations qui font échec à toute forme de propagande ou de manipulation. Voilà la preuve que la crise que traverse le pays affaiblit véritablement le régime, dont les tenants ne savent plus par quel bout prendre le problème pour parvenir à une énième marché de à un énième marché de dupes. Dans tout cela, le gouvernement fait feu de tout bois. La diplomatie azimut, tout azimut, de la propagande dans la presse, une véritable bataille de communication pour sauver les meubles et surtout faire en sorte de passer en force et de continuer à faire ce qui se fait depuis toujours, brasser du vent et puis refuser de faire les réformes. Il n'y a pas, à mon sens, et je pense que je ne suis pas le seul à le dire, de terroristes qui se cachent derrière ce qui se passe au Togo. C'est des revendications légitimes et simples. Les Togolais ont faim. Les Togolais n'ont pas de boulot. Les Togolais n'arrivent pas à se soigner. Les Togolais n'en peuvent plus. Les Togolais en ont marre d'être dirigés par les mêmes personnes qui utilisent les mêmes recettes, qui ne se soucient pas du grand nombre, et qui se préoccupent de vivre dans un luxe outrageant et d'oublier le reste. Aussi simple que ça. Les Togolais ne sont pas des terroristes. Ceux qui manifestent n'ont rien à voir avec quelques terroristes que ce soit. Il n'y a pas de terrorisme au Togo. Ce qui est au Togo, c'est une crise politique, c'est une crise institutionnelle, et les réponses à cette crise ou à ces différentes facettes de crise sont simples. Réforme institutionnelle, réforme constitutionnelle, ancrage de la démocratie, avec des jeux, avec un jeu électoral clair, transparent, équitable, qui permette, au gré de la volonté populaire, l'alternance. Point barre.
Eh bien, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis la région parisienne. La soif de liberté du peuple togolais est loin d'être une réalité après plus de 25 ans de lutte. La flamme de mobilisation rallumée depuis août 2017 risque de se souffler. Que faire pour arriver au bout du tunnel, Jonas Iliadin?
Oui, on entend par ici, par là, que les manifestations n'ont rien produit, qu'elles n'aboutiront à rien. Tout cela, c'est pas vrai. J'ai cité tantôt des résultats auxquels on est parvenu, qu'on peut mettre à l'actif de la mobilisation. Plusieurs de mes amis non togolais sont au courant de ce qui se passe et se sentent de plus en plus concernés. J'imagine que c'est le cas pour les autres, pour un certain nombre de nos compatriotes. Ces messages aussi de désespoir ou de démission annoncée, de renoncement, peuvent aussi être distillés par les gens d'en face pour nous décourager, pour nous démobiliser. Parfois dans la vie, nous renonçons alors que nous sommes proches du but. Vous voyez, une des personnes que j'admire beaucoup me dit souvent cet adage, me cite cet adage de chez nous: celui qui tient les cornes du buffle ne peut jamais, ne doit jamais somnoler. Votre radio le dit si bien, avant l'été. C'est pas ça que nous disons, avant l'été. Le combat doit se poursuivre jusqu'à la victoire finale. Il faut pour cela que la coalition change sa formation tactique et monte d'un cran. Je citais tout à l'heure l'exemple du Congo démocratique. C'est un exemple qui inspire, qui montre que à un moment donné, le combat pour la liberté, la dignité, la restauration de notre indépendance et pour la démocratie et le changement n'est plus un combat exclusivement politique. C'est un combat pour la vie. C'est un combat de triomphe du bon sens sur l'obscurantisme. C'est un combat de triomphe du progrès. Un combat du triomphe de l'amour. C'est un combat de triomphe de ce qui est juste. Et ce combat ne peut pas être que exclusivement politique. Moi, je suis chrétien. Et je reconnais à travers le monde tous ceux qui sont chrétiens pour frères. Et je ne conçois pas qu'on puisse être chrétien et ne pas être concernés par le progrès démocratique, par tout ce qui engendre la paix, par tout ce qui permet l'expression de la fraternité, et du partage. Donc, pour finir cette émission, j'ose croire que ça aura la portée, que ça tombera dans les oreilles qu'il faut. J'exhorte tous les chrétiens du Togo. Ça ne veut pas dire que tous les Togolais qui ne sont pas chrétiens ne sont pas concernés. Je parle pour ma chapelle, et d'ailleurs le christianisme et les valeurs que le Christ a prônées sont des valeurs universelles. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, comprendre mon message. J'invite tous les chrétiens à se mobiliser sérieusement pour ce combat. Et au nombre de ces chrétiens, je lance un appel à l'Église catholique, à toutes les églises chrétiennes, pour prendre aussi leur part de responsabilité. Nous ne sommes plus seulement à nous contenter de communiquer ou à des propos mesurés et ou à des positionnements d'équilibristes, tout ça. Non, il faut trancher. Est-ce que le Christ, par lequel nous nous reconnaissons, par lequel nous pensons avoir la rédemption dans l'autre vie, est-ce que le Christ est venu ici pour apporter la lumière, oui ou non? Est-ce qu'il a prôné l'amour du prochain, oui ou non? Est-ce qu'il a été toujours du côté de la lumière, oui ou non? Si on répond par oui à ces questions-là, eh bien, on est concerné au premier chef par là-bas le combat pour un Togo démocratique, pour la restauration de l'indépendance du Togo. Donc, j'espère que dans les jours à venir, le peuple en lutte pour la démocratie va avoir le soutien bien tranché, bien franc, de tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs du Christ, comme on le voit au Congo démocratique. Voilà un peu mon espérance et voilà le mot sur lequel je voulais terminer cet entretien en vous remerciant de m'en avoir donné l'opportunité.
Africa vio do povo la wawe potole yena chukore o male chifafala wawe potole yena democracy gbe baba Africa wawe potole yena chukore o gba potole du ha ame odola joy ame bara odola joy odola joy ame fiti odola joy Mena odo la joy, ame fundi odo la joy, odo la joy, ame bara bara odo la joy, asafa. Hey, open the belly fino, bena yo le playera. O fonte gbele gbele nu odo etila bena yo le jredwe o potole divise mi bena yo le reconcilier mi yela o fonte gbele fino bena yo le playe mi pare ke mo pan ke kemda wa o fonte gbele gbele hu yeyela quanto be camelio boa a weye ye ko fona chuna la mi pare ke mo me chana Famore wo papo to pali chuchu, agote chuchu ye mi je domi,
yemi majonale mi abovidema. Tokwe kwa memba nyimi ato, amerewo ya wokwere mi asio. Ni wame noda fofuno ade, afibe nya yebe nyinara. Etranjo gojwa de mi asila, eye jume vi ame gado pa wola. Ne wodo nyaku ame juro ade, nanya vele kwe mbusura. Et dans les pépins, t'en gardes, tu as mieux. Non, ma n'y soit jamais, c'est bien pour la courage. Et dans les pépins, t'en gardes, tu as mieux. Et an, 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 an,
na 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 ame bada wo do la jula wawe bosole yena Africa bioto kokola wawe bosole yena jukore o bale ti fafara wawe bosole yena democracy ke baba Africa wawe bosole yena nyigba pa bosole nu ha ha me. I'm a boy, Wodo la Jola. Bumuna bere, eya kere kera. Bumuna bere, Masa, Bumuna bere, eya kere kera. Bumuna bere. Mbabe wena du toke kunya wiyo. Ah ah. Mbabe wena ijajaj. Mbabe wena du toke kunya wiyo. Na 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 na. Mbabe wena. Ame bada wodo la jo. Ame fiti wodo la jo.
Et merci de votre fidélité sur le 3xW canalka.ch et ses radios partenaires FM Liberté Radio Tinigma et Radio Avolété. Et nous accueillons également pour commenter et analyser la crise sociopolitique au Togo, Camille Lawson Body. Il est membre fondateur de l'association Synergie Togo. Camille Lawson Body, bonsoir et merci également de nous accompagner en ligne depuis la région parisienne.
Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir Canal K en Suisse, bonsoir à tous les auditeurs qui vous écoutent de par le monde.
Eh bien, face au soulèvement populaire qui s'intensifie depuis plus de 5 mois, le peuple togolais attendait un discours officiel de Fonia Simbe. Finalement, il a fait mercredi 3 janvier dernier. Camille Lawson Body, vous suivez de près l'actualité au pays, tout comme bon nombre de Togolais de la diaspora. Et si pour certains, ce discours est vaseux, pour des leaders politiques, ce discours est provocateur. Quelle est votre réaction?
Monsieur Fonia Simbe a toujours refusé de s'adresser à sa population, en tout cas la population qu'il dirige. Il a toujours essayé aussi de minimiser la crise quand il y en a. Rappelez-vous en 2005, avec tous les morts tous les jours pendant plusieurs semaines, personne ne communiquait à l'extérieur sur la situation du Togo. N'eût été les Togolais eux-mêmes, la communauté internationale ne saurait pas tout de suite ce qui se passe au Togo. Donc, en fait, Fonia Simbe a toujours fonctionné comme ça, ne s'adresse jamais à son peuple, refuse de communiquer avec le monde extérieur, et pourtant la crise, elle est là, et les populations sont déterminées à mettre fin à cette dictature que nous vivons au Togo depuis 50 ans. Donc, il faut Il faut passer outre le manque de communication de Fornia Sibé, en tout cas ce qu'il essaie de faire passer. On voit bien lorsqu'il s'adresse à ses partisans en disant que tout le monde le prend pour un dictateur sanguinaire, alors qu'il est un homme simple. Donc vous comprenez, ça a toujours été comme ça et je pense que ça ne changera pas parce que ça fait partie de la stratégie du pouvoir et de Fornia Sibé. Alors que la réalité, c'est que il y a 2017 a quand même vu beaucoup de difficultés au Togo. Vous savez, il a parlé de grandes réalisations, des réussites, des joies, mais ça a été tout le contraire. Le peuple togolais a été brimé, les produits pétroliers pendant que les produits pétroliers se trouvent en diminution, les prix en diminution dans le monde entier, au Togo on augmente les prix et les gens ont du mal à suivre, la population togolaise a du mal à suivre, on muselle les médias, il y a des grèves partout dans tous les secteurs d'activité quasiment du Togo, et donc la situation n'est pas du tout bonne, et Fornia Sibé n'a pas souhaité s'adresser à son peuple parce qu'il est dans une bulle et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc il faut que les Togolais continuent à lutter pour leur indépendance parce que on est toujours dans cette dictature qui ne dit pas son nom depuis 50 ans.
En tout cas, le peuple togolais est debout à jamais, Camille Lawson Body. Vous l'avez vu, hein, ce peuple n'est pas fatigué, il est déterminé. Et là, l'année 2017 a bouclé sur une note de crise populaire profonde au Togo. Rien n'est garanti que les manifestations vont faire partie Fornia Sibé, qui visiblement minimise ces vagues de contestation, doublées des morts, de centaines de blessés, des prisonniers, des réfugiés. Et là, on se pose la question, jusqu'à quand Fornia Sibé va-t-il résister?
Vous savez, monsieur Amos, ce n'est un secret pour personne que Fornia Sibé cherche à s'éterniser au pouvoir. Il suffit de voir effectivement la crise actuelle que vit le pays depuis 6 mois et les réponses qu'il donne par rapport à ça. Les Togolais veulent le départ de Fornia Sibé, ils veulent une alternance. L'alternance est inéluctable dans un pays démocratique. Mais lorsque vous observez les réponses de Fornia Sibé, il n'y a rien, je dis bien rien, qui donne un signal que Fornia Sibé écoute ce que le peuple demande. Il fait voter, il cherche en tout cas à faire voter une loi qui lui donnerait un bail à vie. Lorsque les populations réclament son départ, c'est la répression, c'est les milices qui sortent pour tabasser les gens. On voit bien que la résistance, elle va être le mot d'ordre de Fornia Sibé. Il faut que la population togolaise continue à travailler, à insister pour qu'on puisse obtenir le retour à la Constitution de 1992, qui a été votée, je rappelle quand même, par 98% des Togolais, et qui a été charcutée pendant plusieurs périodes pour permettre à Fornia Sibé, d'abord à son père et à lui-même, de rester au pouvoir jusqu'à présent. On ne va pas rappeler toutes ces étapes difficiles et douloureuses de la vie des Togolais. Nous devons continuer à insister, à travailler pour obtenir ce retour à la Constitution de 1992 qui limite le mandat à 2 et qui n'autorise personne à faire plus de 2 mandats. Fornia Sibé en est à son 3e. Cela suffit. Je pense qu'il appartient vraiment au peuple d'user de son droit constitutionnel pour continuer à manifester et à insister pour que cette situation puisse changer. Nous devons évoluer au Togo. Le peuple togolais a soif de liberté. Le peuple togolais a besoin d'alternance. L'alternance est une nécessité absolue dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il faut que Fornia Singwe prenne la mesure de cette situation et donne des gages qui permettent qu'il termine son mandat.
Et là, tantôt, vous venez de convier le peuple togolais à se lever comme un seul homme. Et depuis plus de 5 mois, ce peuple compte accès de résigné, d'essoufflé, voire d'incapable, à clouer le bec à tous les médisants. Camille Lawson Body, que peut-on demander encore à ce peuple? De se lever, il le fait déjà. De manifester, il le fait aussi. Et de mettre la main aussi à la poche, il le fait aussi. Alors, la question est de savoir, le peuple togolais a-t-il besoin de faire beaucoup plus, ou bien de se donner encore beaucoup plus pour conclure cette lutte?
Vous savez, toute lutte pour la libération d'un peuple est toujours longue, très difficile. Les exemples sont légion, hein. Vous savez, la France a eu besoin de beaucoup d'années pour se libérer. Les révolutions sont toujours difficiles. Et là, nous sommes en face d'un régime dictatorial, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, toute dictature pour changer est très, très difficile à convaincre. Donc, c'est pour ça que notre lutte, elle est longue, elle est dure. Et il faut que le peuple togolais continue à rester soudé et déterminé pour continuer cette lutte pour la libération de notre pays. Nous n'avons pas le choix par rapport à ça. La diaspora doit continuer à manifester partout. Nous devons continuer à parler de notre problème partout pour que toutes les personnes qui peuvent nous aider à nous libérer, même si c'est nous, le peuple, qui doit se libérer, pour que toutes les personnes qui peuvent nous aider à se libérer le fassent et nous assistent dans cette situation. Il faut, je l'ai dit tout à l'heure, que nous obtenons une alternance au Togo. Ça n'est pas possible de continuer ainsi. Mais je pense que les diplomaties occidentales connaissent très bien le problème du Togo. Donc, on va continuer à travailler pour porter cette voix-là et pour que le peuple se sente assisté pour que et continuer et conclure cette lutte.
Et nous continuons toujours avec la mobilisation, la détermination du peuple togolais. Et pour certains observateurs, le peuple togolais a presque tout donné. Et si Fornia Singwe n'a pas le soutien de l'armée et des multinationales européennes comme françaises ou allemandes, Fornia Singwe devrait déjà tomber depuis longtemps. Est-ce que vous partagez cet avis et comment réinventer la lutte selon vous?
Je vais me permettre de donner ici la définition de la dictature selon le dictionnaire français. Une dictature, c'est un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exerce tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite. Et même lorsqu'il y a des institutions, elles ne fonctionnent pas correctement et il n'y a pas de contre-pouvoir. Et puis surtout, la coercition est assurée par les forces armées et les forces de l'ordre qui relaient le pouvoir, de sorte que les lois ne sont pas éthiquement légitimes et les institutions sont factices. Voilà ce que dit le dictionnaire français sur la dictature. Et donc, si nous regardons bien ce qui se passe dans notre pays, nous sommes en dictature. Et comme pour toute dictature, l'appui le plus important, c'est l'armée. Donc, c'est clair que sans l'armée, une dictature ne fonctionne pas correctement, enfin en tout cas, ne tient pas longtemps. Et vous avez également évoqué la question des multinationales. Oui, il y a certaines multinationales européennes qui sont organisées, il y en a, c'est un peu partout en Afrique que nous avons déjà cet état de fait. On sait que l'Afrique est riche et malheureusement, il y a des organisations avec des dirigeants africains qui font que il y a un pillage systématique des richesses des pays. Nous sommes dans le même cas au Togo et certaines multinationales sont organisées en système mafieux pour piller le pays au détriment du peuple togolais. Nous sommes 7 millions d'habitants, le Togo a les moyens d'assurer un minimum de confort de vie au peuple togolais, mais malheureusement, et comme le dit le chef de l'État lui-même, il n'y a qu'une minorité qui s'accapare les richesses du pays. Donc, nous allons continuer à travailler pour que cet état de fait cesse et que il y ait une redistribution plus correcte des richesses du pays, et puis que nos frères de l'armée se rendent compte que répression systématique n'est pas la bonne chose et que l'armée doit devenir républicaine. Voilà ce qu'on peut dire sur la question que vous me posez, et malheureusement on doit insister encore une fois pour que cette situation cesse.
Camille Lawson Body, en tout cas beaucoup de Togolais pensent comme vous que l'armée doit prendre également ses responsabilités. Et là, écoutez, dans les différentes communications du régime togolais, on met beaucoup plus l'accent sur le terrorisme. Pourquoi, selon vous, cette approche?
Oui, le gouvernement togolais a commencé par le président de la République lui-même. Mais en effet, beaucoup l'accent sur le terrorisme et par le djihadisme, en stigmatisant notamment une partie de la population togolaise qui s'est réveillée ces derniers temps pour réclamer le départ de Faure Gnassingbé. En fait, je pense que c'est assez simple. Le pouvoir cherche à attirer la sympathie de la communauté internationale qui combat le djihadisme et le terrorisme partout dans le monde, et notamment dans certaines régions de l'Afrique. Donc c'est simple de dire que on a du djihadisme chez nous au Togo, et pour que la communauté internationale puisse regarder le Togo d'un autre œil. C'est aussi simple que ça. Et puis du coup faire en sorte d'éteindre la contestation qui continue de plus belle et qui s'est installée depuis près de 6 mois. Donc voilà les raisons pour lesquelles le gouvernement togolais, le pouvoir togolais cherche à stigmatiser une partie de la population. Mais personne n'est dupe, hein. Vous savez, nos frères de Soukodé, parce que c'est d'eux qu'on parle, et d'ailleurs le président de la République l'a carrément cité dans une interview, ne sont pas des terroristes ni des djihadistes. Et puis je vais vous dire une chose, on le voit partout, les terroristes, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent, hein. Ils ne se font pas tabasser dans la rue et ne manifestent pas à main nue. On a parlé des armes qui circulent, mais tout ça c'est plutôt pour noyer cette contestation. Non, il y a pas d'armes qui circulent. Les terroristes ils font plutôt ils mettent des bombes, ils font des attentats, et c'est pas ça qu'on voit au Togo. Il n'y a pas d'attentats au Togo, il n'y a pas de bombes qui sautent, il n'y a pas des kamikazes au Togo, hein. C'est ça la réalité du djihadisme ou du terrorisme. Non, il n'y a pas de terroristes au Togo. C'est une communication pour noyer la contestation qui va continuer de plus belle.
Eh bien, tout à fait, Camille Lawson-Body, vous l'avez dit, hein. C'est une manière de noyer la contestation populaire qui est très très loin de s'affaiblir. Et là, la diaspora togolaise n'est pas restée indifférente face à la grave crise qui secoue le Togo depuis presque 6 mois déjà. La diaspora continue de multiplier des manifestations. Et vous devez savoir qu'également 13 janvier même, hein, à Berlin, à Freiburg, la diaspora s'organise également. Mais est-ce que la diaspora cible bien les décideurs dans leur stratégie de lobbying, à savoir les sénateurs, les députés européens, etc. Camille Lawson-Body.
Tout à fait. La diaspora a bien raison de continuer à multiplier les manifestations de par le monde, et on le voit, hein, partout dans le monde, la diaspora continue à insister, et puis elle insiste également auprès des partenaires internationaux dans les pays dans lesquels ils vivent, les Togolais. Donc non, il faut que nous continuions à insister auprès de nos partenaires pour dénoncer la situation du Togo, pour mettre l'accent sur la nécessité d'aider le Togo à évoluer, parce que aujourd'hui on voit ce qui se passe à travers le monde, et notamment le problème de l'immigration qui se pose. Beaucoup d'Africains meurent en voulant traverser les mers pour arriver dans les pays européens. Et les pays européens essayent de contenir cette vague-là. Une des façons de la contenir, c'est de faire en sorte que les Africains puissent rester dans leur pays d'origine. Et pour rester dans leur pays, ben il faut mettre en œuvre les moyens pour qu'ils puissent y rester, c'est-à-dire arrêter de faire piller les richesses des pays par une minorité, pour que les Togolais, en tout cas en ce qui concerne mon pays, puissent trouver de quoi conserver leur population chez eux. C'est ça qu'il faut continuer à dire à nos partenaires de par le monde, et la diaspora togolaise doit continuer à insister, à faire du lobbying, à donner la mesure de la situation que nous avons au Togo pour que cette situation puisse changer. Nous sommes en 2018, on parle de la mondialisation, les problèmes qui se posent dans n'importe quel coin du monde, et il faut le savoir, ça touche tout le monde partout. C'est, on ne peut pas, les Européens ne peuvent pas continuer à fermer les yeux sur les problèmes, les vrais problèmes des pays africains. Et ça, c'est nous dans la diaspora qui devons continuer à sensibiliser les partenaires et puis les pays de européens, et un peu partout en Amérique aussi, pour que ils puissent prendre la mesure de la situation et nous aider à sortir de ce cadre complètement inadmissible.
Justement, face à la crise qui secoue le Togo, la diaspora a le devoir de s'organiser et de se structurer. Camille Lawson-Body, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien exclusif. Et rapidement, une dernière question. Après plus de 50 ans de dictature, les Togolais ont soif de liberté. La flamme de mobilisation rallumée depuis août 2017 risque de s'essouffler, selon certains observateurs. Alors, Camille Lawson-Body, que direz-vous pour conclure cet entretien?
La mobilisation actuelle n'est pas prête de s'essouffler, monsieur Amos. Les Togolais sont déterminés à mettre fin à 50 ans de pouvoir d'une même famille, avec tout le lot de disgrâces que ça donne. Non, la mobilisation va continuer. Les Togolais sont prêts vraiment à mettre fin à cette situation. On ne peut pas continuer 50 ans, ça suffit. Et je voudrais, pour terminer, rappeler une chose, c'est que dans les pays démocratiques dans lesquels nous vivons, j'entends souvent dire qu'il faut aller aux élections, que ce sont les élections qui règlent le problème de la de l'alternance. En réalité, tout le monde sait ce que sont les élections au Togo. Je vais faire un rappel du règne de Faure Gnassingbé, puisque ça fait déjà 3 mandats. Je ne parle même pas de celui de son père. Nous avons vu ce que les élections ont donné en 2005. 500 morts, selon des rapports officiels, des urnes sous les bras des soldats qui chassent des populations dans les bureaux de vote devant les caméras du monde entier. Nous avons vu en 2010 les procès-verbaux pendant que le principal candidat de l'opposition, Monsieur Jean-Pierre Fabre, fait compiler les résultats. Les PV ont été saisis avec les matériels de compilation et ensuite on a proclamé Faure Gnassingbé vainqueur. Nous avons vu en 2015 la mascarade électorale avec seulement 14 centres de vote sur le territoire national qui ont été compilés, qui ont été dépouillés pour 42 CELI. Et pourtant, on a proclamé Faure Gnassingbé vainqueur. Non, il faut arrêter cette situation. On ne peut pas parler d'élection au Togo. Et je ne parle même pas du fichier électoral qui est complètement vicié, avec 80% des personnes qui sont inscrites sur témoignages, près de des doublons dans tous les coins. Non, il faut arrêter cette mascarade. On ne doit pas parler d'élections. Il faut faire les réformes pour revenir à la Constitution de 1992. Monsieur Faure Gnassingbé doit prendre la mesure de la situation qui prévaut actuellement dans le pays et accepter de faire les réformes nécessaires à la consolidation de la démocratie dans notre pays qui passe bien évidemment par l'alternance. C'est important pour notre pays et je souhaite que cette nouvelle année 2018 puisse voir tous ces changements dans mon pays.
Merci beaucoup Camille Lawson-Body de nous avoir accompagné en ligne depuis la région parisienne. Je rappelle que vous êtes membre fondateur de l'association Synergie Togo basée en France. Merci et bonsoir.
Togolaise et Togolais de la diaspora, le moment décisif d'apporter notre appui déterminant au peuple togolais pour bouter définitivement Faure Gnassingbé dehors est arrivé. La coalition de la diaspora pour l'alternance et la démocratie saisit l'urgence du moment et dans la continuité de l'esprit de Paris vous propose les 2, 3 et 4 mars prochains la tenue des grandes assises de la diaspora pour mettre en synergie nos forces et capacités. La coalition de la diaspora pour l'alternance et la démocratie Kodi Togo invite les diasporas des Togolais des différents pays ou villes du monde désireux d'accueillir les assises de soumettre leur candidature sur le site de koditogo.org au plus tard le 24 janvier 2018. Tous les Togolaises et Togolais, les organisations, les mouvements et les personnes ressources de la diaspora qui luttent pour l'alternance et la démocratie au Togo sont vivement conviés aux assises. Pour toute information ou suggestion, visitez le site www.koditogo.org ou envoyez un courriel à info@koditogo.org. Togolais, viens, bâtissons la cité, vaincrons ou mourons, mais dans la dignité. 50 ans, ça suffit. Faure Gnassingbé doit maintenant partir, et maintenant, la victoire appartient au peuple togolais souverain. Togo, debout, à vous l'été. Coucou les Tetenta.
Merci de votre fidélité sur Radio à vous l'été. Coucou les Tetenta. Le Togo serait-il devenu un no man's land? C'est la grande question qu'on se pose face à l'insécurité grandissante qu'occasionnent les agissements de milices que malheureusement le gouvernement togolais reconnaît et bâtit sans vergogne groupe d'autodéfense. À mes auditeurs, tout a commencé en 2005, au lendemain de la disparition de feu général président Gnassingbé Yadema, où de jeunes porteurs d'armes et de gouvernements écoutés ont semé la terreur à travers le pays aux côtés des militaires, gendarmes, policiers, anciens combattants, forestiers. Les différents rapports parleront de plus de 500 morts. Faure Gnassingbé prononcera à Takpamé, le plus jamais ça, et lancera un processus de réconciliation au cours de laquelle, malheureusement, personne, même pas l'armée togolaise, auteur des tueries par balles, ne reconnaîtra les faits et demandera pardon au peuple togolais. En 2013, des individus armés de machettes et gourdins ont attaqué un convoi du collectif Sauvons le Togo à Adéhui, un quartier de Lomé, en pleine manifestation de contestation du pouvoir. On dénombrera plusieurs blessés. Le ministre Yak Demian, à l'époque, avait déploré l'incident et lancé une enquête qui reste ouverte, tout comme plusieurs autres jusqu'à ce jour. En 2017, une manifestation du PNP, Parti National Panafricain de Tikpi Achadam, a été réprimée par des jeunes armés à l'effigie du RPT Uni. Chaises cassées, appareils de sonorisation et groupes électrogènes emportés par les gendarmes qui officiaient aux côtés de ce qui, groupe d'autodéfense. L'attaque des militants du PNP au domicile de Ricardo Agouzou est le récent en acte posé par le fameux groupe d'autodéfense. Amis auditeurs, force a été de constater qu'en aucun moment, aucune loi, aucun test de la République n'énonce au groupe d'autodéfense fut-il dans le dispositif sécuritaire du pays. De façon tout à fait surprenante, le gouvernement togolais et des élus du peuple togolais reconnaissent légitimes ces groupes de bandits armés, dits groupes d'autodéfense, qui selon eux, se sont organisés pour violenter, blesser, enlever, tuer de paisibles citoyens qui manifestent les mains nues pour réclamer le retour à la constitution de 1992 dans sa version originelle et le vote de la diaspora. Qui sont ces miliciens? Pour qui roulent-ils? Pour en parler à mes auditeurs patriotes togolais, notre deuxième invité est Moussa Issifou, porte-parole de la CEMAD, coordination des mouvements et associations de la diaspora togolaise. Moussa Issifou, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis Caroline du Nord.
Bonsoir Sylvain et bonsoir aux auditeurs de la radio à vous l'été, radio de la résistance Kokoulé Tetenta.
Eh bien, vous avez suivi, comme beaucoup de Togolais sur les réseaux sociaux et sur RFI Radio France Internationale, le récit d'Agouzou Ricardo, militant du PNP à Kara, qui a été sérieusement molesté, y compris ses camarades, par des miliciens alors qu'ils étaient en pleine réunion. Moussa Issifou, est-ce que vous avez eu une réaction?
Je voudrais tout simplement dire que si j'ai une réaction par rapport au comportement moyenâgeux du préfet de Kara et de ses miliciens, je dirais que nous n'avons plus de mots pour exprimer notre indignation, pour pouvoir traduire ce que nous ressentons, le degré d'indignation que nous voulons vraiment exprimer. Les mots nous manquent pour le faire. Alors je dirais tout simplement que le Togo, ça fait pitié. Ce que le préfet et ses hommes de main sont en train de faire à Kara, ils l'ont fait dans les années 90, où ils ont rendu la ville de Kara presque invivable à cause de ces comportements-là. Souvent, ces miliciens, c'est des voleurs, des petits voleurs, connus, et on promet des choses, et qui vont commettre des trucs. Mais ce qui blesse, ce qui est plus grave, c'est que quand des soldats recrutés pour servir la République se permettent aussi d'intégrer ces milices-là pour aller attaquer des citoyens, parce qu'ils osent, n'est-ce pas, vouloir exercer leur liberté en tant que citoyen de s'exprimer politiquement. Vous voyez, et le préfet de Kara et ses milices ne sont pas à leur première attaque. Et ils l'ont toujours fait. C'est la terreur qui règne à Kara. Si on pouvait mesurer le degré d'aspiration à la démocratie des villes du Togo, je pense que Kara serait placé quelque part en première ou deuxième position. La majorité des habitants de la ville de Kara, les autochtones, y ils veulent le changement. Ils veulent que ça change. Mais c'est ces petits malfrats-là, des criminels comme ça, avec en leur tête, c'est pas des officiels, et mélangés de quelques militaires, eux-mêmes miliciens, qui sèment la pagaille dans les quartiers de Kara. Ils font tout pour dire qu'à Kara, personne ne peut manifester. Entre-temps, on nous a dit que non, on a demandé à Kara de manifester. C'est les habitants, même, les populations, elles-mêmes qui ne veulent pas manifester. C'est ce qu'un ministre nous a dit sur les antennes. Sans honte. Voilà. Les gens ne sont même pas sortis pour manifester. C'est juste une réunion. Ce n'est même pas une réunion publique. Une réunion à huis clos du bureau. Ils ont failli laisser leur vie. N'eût été l'intervention, une intervention divine. Ils n'ont eu la vie sauf que cette intervention divine-là, parce que 60 personnes contre 8, 60 personnes armées contre 8 personnes, ce n'est pas évident. Mais Dieu est toujours du côté des justes. Dieu est toujours du côté des gens qui lutte pour le bien-être des faibles. Donc moi, je dirais que c'est ce qui a sauvé la vie au camarade Ricardo Aguzu et les 16 autres camarades. C'est ici le lieu de rendre hommage à Dieu qui veille sur tout le monde. C'est aussi le lieu de rendre, n'est-ce pas, hommage à ce groupe-là, et ce groupe de Togolais déterminés qui ont, malgré toutes les menaces qui pèsent sur eux, osé tenir la réunion dans la gueule du loup. C'est ce qu'on appelle conviction, c'est ce qu'on appelle engagement. C'est ça. Ils veulent le changement et ils pensent qu'il ne doit pas y avoir de limites quant à ceux-là qui doivent s'exprimer pour que ce changement enfin arrive sur la terre de nos aïeux. Alors, ma réaction, comme je vous l'ai dit, les mots me manquent pour exprimer le degré de mon indignation par rapport à ce comportement moyenâgeux d'un groupuscule de personnes qui sèment la terreur dans la ville de Kara. Mais je vais avant tout rappeler que Aguzu et ses camarades sont des vaillants combattants. Ils sont nos héros et nous leur demandons de continuer car la victoire est proche.
Moussa Issifou, on peut comprendre votre indignation et là depuis 2005, on observe ces graves agissements des miliciens. On se rappelle aussi de leurs actes en 2013 à Adéwi, un quartier de Lomé. Mais est-ce que vous comprenez le ministre de la Sécurité, Yacc Demian, qui affirme que ces milices sont des groupes d'autodéfense? Comment comprendre ce traitement que le pouvoir fait de ces bandits armés qui circulent tranquillement à bord de pick-up bien identifiés?
Vous me demandez de faire un effort pour comprendre l'absurde. Je pense pas que on puisse comprendre cela puisque le langage utilisé, je pense pas que le ministre voulait que l'on le comprenne. Je pense pas donc faire un effort pour comprendre un langage qui relève de l'absurde. Moi, je pense que c'est perdre son temps. Mais ce que tout le monde sait, ce que tout le peuple togolais sait, c'est que ces milices ne sont pas tombés du ciel. Non. Ces milices qui se promenaient en pick-up ne sont pas venus d'ailleurs. Alors, ces milices sont formés, entretenus, armés par le pouvoir et au nom duquel Yark est en train de parler. Donc, il va de soi qu'ils puissent justifier la présence de ces ministres-là en voulant passer par d'autres chemins. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de vouloir comprendre ce que le ministre dit, mais nous, on s'en tient aux preuves et aux faits qui sont là. C'est ça qui est important. Ce n'est pas les interprétations ou bien ce que les gens disent de ce qui s'est passé qui compte, mais c'est ce que nous avons vu. Le peuple togolais a vu que ce ne sont pas des groupes d'autodéfense, mais c'est des milices qui étaient préparées depuis des semaines pour agir comme ils l'ont fait. Puisque avant même ces attaques, cette sortie musclée de ces milices-là, des audios avaient circulé, faisant état du fait que ces milices avaient eu des réunions où ils étaient prêts à attaquer. Et bon, nous, on a pensé que les audios que nous avions eu à écouter devaient dissuader les commanditaires de ces milices-là et ces milices même à renoncer à leur projet macabre. Mais c'était sans compter avec la détermination à faire valoir la violence sur de paisibles populations qui s'exprimaient dans les rues. Alors moi, je ne suis pas étonné et quand on vient nous dire que non, c'est des groupes d'autodéfense, ils ont inventé des actions qui auraient motivé la création de ce groupe d'autodéfense-là. Mais ce qu'ils ont dit pour expliquer la motivation derrière la sortie des milices, ça n'a convaincu personne, puisque tout le monde sait que ce n'était pas convaincant. Eux-mêmes, ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils disaient. Donc, c'était devenu pour eux un jeu. Nous allons sortir, on ira là-bas, on va les blaguer, et c'est fini, puisque nous avons la force pour éprouver les droits. Et ils savent que sitôt qu'ils peuvent désobéir impunément, ils le peuvent légitimement, et c'est ce qu'ils ont fait. Parce que personne ne peut les punir, personne ne peut leur demander des comptes, donc l'agissement là est devenu légitime. C'est pourquoi à chaque fois qui sont en perte de vitesse, ils recyclent ces comportements et ils les font valoir sur les autres citoyens du Togo. C'est aussi le lien de dire que cette affaire des miliciens dans nos villes doit interpeller tout le monde, doit interpeller ceux-là même qui s'accrochent au pouvoir comme des chauves-souris. Parce que ça ne serait pas bon pour eux aussi. Nous avons eu vu des pays où ces miliciens avaient été utilisés par des dictateurs. Mais c'était ces mêmes miliciens qui ont causé la chute de ces dictateurs. Vous voyez, lorsque vous signez un accord avec des gens qui sont des tueurs à gages et vous n'arrivez plus à tenir promesse, ils se retournent contre vous et la République est en danger. Alors moi, je pense que si vous voulez garder le pouvoir comme vous le prétendez, comme vous vous battez, je ne pense pas que mettre des miliciens à la trousse de vos concitoyens vous aidera plus. Il va falloir renoncer à ces pratiques-là parce que tôt ou tard, cela risquera par vous rattraper.
Mais justement, avec tout ce que vous venez de décrire sur le Togo, doit-on craindre une escalade de violence, surtout que le régime est décidé à avancer dans une problématique de processus électoral?
Oui, Amos, je pense que nous devons craindre une escalade de la violence, puisque le parti au pouvoir, ou bien les partis au pouvoir RPG unir en voulant coûte que coûte foncer, tout droit tête baissée vers les élections. Ce n'est pas que le RPT unir compte sur un électorat donné, ce n'est pas que le RPT compte sur une légitimité donnée, ou bien s'appuie sur une légitimité donnée. La seule légitimité sur laquelle s'appuie le RPT, c'est la violence. C'est le langage de la violence qu'il parle, c'est ce langage-là qu'ils utilisent partout. Donc, pour eux, nous avons la force, nous avons l'armée. Si ça ne suffit pas, nous avons des miliciens et qu'on peut aussi mettre dans les rues et pour attaquer leurs propres leurs concitoyens. Donc moi je pense que même la façon dont le RPT fonce et parle de ces élections là, c'est une manière de nous dire que nous n'allons rien laisser, nous sommes prêts à vous massacrer pour aller droit dans la logique, dans notre logique, et conserver le pouvoir. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, il faut craindre que je sais pas. Il faut craindre quand même pour le Togo. Le lendemain, au Togo, ne seront pas tellement, c'est pas intéressant. Parce que, au nom de, du maintien du pouvoir, de la conservation aveugle, et comment la perte de la conservation aveugle, criminel du pouvoir, l'on est prêt à quoi, à tout. Ce que ces gens-là ont fait faire dans certaines villes, ce qui nous prouve que c'est déjà Dieu seul sait, c'est pas ce qui les anime, ce qu'ils ont fait aux victimes, Dieu seul sait ce qui vraiment les motive dans leur comportement. Mais le peu que nous savons, c'est ce que ces gens-là, ils veulent garder le pouvoir à vie. Ils veulent pas de changement. Ils veulent conserver tous les biens du Togo à eux seuls. Ils veulent exploiter toutes les richesses du Togo à eux seuls. C'est des gens qu'on ne peut pas comprendre. Et quand vous voyez ce régime-là, chacun dans son coin lutte pour conserver les avantages. C'est ce qui les rend fous quand ils voient des gens en train de manifester pour réclamer que l'égalité soit dans le pays, que l'équité règne, que la justice règne, et que la démocratie enfin, n'est-ce pas, gagne la tête de nos aïeux. Ils se mettent en courroux. Moi, quand j'observe le comportement, l'allure même avec laquelle nos soldats qui viennent attaquer les manifestants, c'est-à-dire que la façon dont ils avancent vers les manifestants, leur regard tout court, c'est-à-dire que c'est, vous lisez une haine, c'est pas venant, une haine sur leur visage. Moi, je ne sais pas ce que les citoyens qui manifestent auraient pu faire pour susciter cette haine envers ces citoyens-là. La fois passée, nous avons vu, ils ont tabassé un citoyen qui serait un journaliste. Quand ils l'ont mis dans leur pick-up, il y a quelqu'un qui a pris ses pieds avec ses rangers, il était de lui marcher sur le cou. Pourquoi? Il vous a fait quoi? Parce que il a osé dire changement. C'est là, quand vous voyez des comportements purement, ça dépasse l'entendement. Comment vous pouvez expliquer ça? Moi, je l'ai toujours dit. La seule fois qu'un homme doué de raison, c'est pas perd la raison, c'est quand il fait face à l'irrationnel, au non-sens, à l'incompréhensible. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas pourquoi un soldat, fût-il un policier, un gendarme ou bien un béret rouge ouvert, je ne comprends pas pourquoi il peut être haineux, il peut exprimer tant de haine envers son frère, sa sœur togolaise. C'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait dire que le lendemain pour le Togo ne seront pas bons. Parce que le peuple, lui, il est déterminé à aller jusqu'au bout. Mais les soldats, et le pouvoir est déterminé à garder le pouvoir. Ils nous ont dit, si vous voulez le pouvoir, prenez les armes. C'est comme ça. Je vous ai expliqué la dernière fois comment la conception, la philosophie du pouvoir chez ces gens-là. Ce n'est pas la démocratie. Non. Il faut éliminer son adversaire. Et là, on garde le pouvoir pour de bon. Donc, le silence que le Togo a connu par rapport aux manifestations après les élections de 2015, ça dit que c'est ça. C'est ce qui plaisait au régime. Nous avons pu faire taire tout le monde et maintenant nous avons le boulevard. Nous allons régner à vie. Mes chers RPT Unir, vous vous trompez. Le peuple togolais dit non et il est prêt. Et il ira jusqu'au bout.
Eh bien, parlons toujours de ces miliciens. Et là, face à ces agissements de ces miliciens, doit-on conclure Moussa Issoufou a eu une capacité du gouvernement à assurer la sécurité des Togolais?
Pour être clair, il faut savoir que ce n'est pas la sécurité des citoyens qui intéresse le régime en place. Non, c'est le dernier de leurs soucis. Non, c'est le pouvoir qui intéresse le régime en place. Donc, tous les moyens sont bons pour conserver ce pouvoir-là, y compris l'utilisation des milices. Si on peut nous dire que nous avons des forces de sécurité, nous avons presque tous les corps possibles dans l'armée, et dire que des miliciens peuvent opérer parce qu'ils sortent pour protéger leur quartier, là ça fait honte. Moi, je pense que Thomas Hobbes, dans ses théories, quand il parlait de l'état de nature, et surtout quand il parlait de la volonté de puissance, je pense que nous sommes à ce niveau-là. C'est comme si le Togo est un pays qui vit à l'état de nature, où les lois n'existent plus, où le plus fort fait sa loi. Vous voyez, non? C'est ça, c'est comme ça que je vois le Togo. C'est-à-dire qu'on a suspendu toutes les lois, et maintenant, que le plus fort règne. Donc c'est comme ça, le règne de l'arbitraire, le règne de la terreur. Mais ici, le problème, c'est que c'est un état de nature artificiel créé par nos gouvernants afin de pouvoir forcer la main des citoyens à les accepter comme gouvernants. C'est ça. Nos gouvernants ont oublié que on peut amener un âne par force à la rivière, mais on ne pourra pas le forcer, n'est-ce pas, à boire de l'eau. Non, on ne pourra pas forcer l'âne à boire l'eau de la rivière. Nous sommes en quelque sorte arrivés à ce point où le peuple togolais a dit non. Si vous permettez cette dernière métaphore, c'est comme notre problème avec le régime, c'est comme une femme qui n'est pas amoureuse de l'homme qui se propose à lui ou bien qu'on lui propose. Et vous avez beau faire ce que vous voulez, vous pouvez utiliser la violence comme l'argent, ça ne va rien changer. Le peuple togolais est arrivé à ce point-là où il ne veut plus rien avoir avec ce régime-là, compte tenu de son caractère criminel, compte tenu du fait que il ne respecte rien. Le peuple dit non. J'aimerais aussi avoir la chance d'essayer quelque chose, voir après 50 ans. Maintenant, est-ce que ça, c'est un problème, ça? Ça, il faut être génie pour comprendre que le peuple a dit non et que cette fois-ci, son non, ce qui ne peut plus faire marche arrière. Est-ce que ça, il faut avoir un diplôme pour comprendre ça et tirer des conclusions adéquates? C'est là où c'est un peu bizarre. Et donc, oui, je vais t'épouser, même si tu ne m'aimes pas, tu ne veux pas de moi. Je vais t'épouser par la force. Qu'est-ce que tu vas gagner en voulant forcer? Oui, donc c'est notre cas maintenant. Et je pense que l'insécurité qui règne et qui va régner, parce que vous savez, comme vous le voyez, quand Yadema avait perdu le pouvoir après la conférence nationale, il a rendu le Togo invivable. C'est ces miliciens-là qui étaient, c'est pas lâchés, et ils ont semé la terreur partout. Mais moi, je pense que 2090 ou 92 n'est pas 2018. Ces miliciens-là ne vont plus opérer impunément, puisque les gens vont les filmer et au moment venu, on va les retrouver. On va les retrouver. Si on vous dit que des anciens collabos nazis qui ont maintenant 90 ans, 100 ans et quelques, 100 ans et autres, sont toujours en train d'être arrêtés. Dès qu'on le reconnaît, on le met aux arrêts et pour qu'il réponde de ses crimes. Là, ça date de combien d'années? Là, c'est que les gens se trompent maintenant. Tous ces miliciens-là, ils ont été filmés, tout est là. Et on va voir comment ils vont s'échapper. Ils vont échapper à la justice togolaise, à la justice internationale. Parce que pour nous, qui sommes convaincus de l'imminence d'un changement au Togo, tout ce qu'ils font là, ça nous amuse, puisque nous savons que ça va finir. Ça va finir. Alors, tant pis pour eux.
Alors, face à cette situation, que peut faire, selon vous, le peuple togolais pour se mettre en sécurité face aux exactions de ces groupes d'autodéfense?
Amos, moi je pense que c'est la vigilance. Nous demandons au peuple de redoubler de vigilance au cours des marches. Comme vous le voyez, le peuple a pu, c'est pas grâce à cette vigilance-là, a pu mettre la main sur plusieurs milices qui tentaient de les infiltrer afin soit de commettre des crimes sur les manifestants ou bien contre d'autres personnes, et en tout cas à début inavoué. Donc disons que les services de sécurité des différents regroupements politiques qui prennent part aux marches doivent redoubler de vigilance afin de démasquer de loin ces milices-là qui ne vont jamais arrêter de tenter d'infiltrer ces groupes. Donc ils n'ont qu'à faire un effort dans ce sens et être plus vigilants et faire en sorte qu'ils puissent veiller et à éviter les infiltrations. Maintenant, c'est quant à ce qui est de l'attaque ou bien des attaques que ces miliciens là peuvent, c'est pas délibérément mener contre les manifestants, je pense que s'ils sont vraiment reconnus miliciens, il va falloir dire que les manifestants ne doivent pas se laisser faire. Il y a ce qu'on appelle légitime défense. Donc, vous voyez des miliciens qui n'ont reçu aucun mandat républicain, puisque quand ça chauffe dans tous les gouvernements, même ni leur existence. Donc, je pense qu'il faut que les manifestants aussi puissent être, prêts à se défendre et de façon légitime face à ces criminels-là qui prennent de l'argent, sont saoulés, drogués pour aller commettre des méfaits sur les populations qui ne réclament que les choses les plus élémentaires. Vous voyez, donc il faut, et moi je pense qu'il faut être vigilant, mais au-delà de la vigilance, il faut aussi être à même de se défendre si l'on venait à envahir votre zone de sécurité.
En tout cas, Moussa et Sifon dit souvent à bon entendeur, salut, j'espère que les auditeurs sont à l'écoute de vos conseils. On continue cet entretien exclusif que vous avez bienvenu nous accorder en ligne depuis Caroline du Nord. Et là, le gouvernement togolais assimile les manifestations publiques pacifiques du peuple togolais à des actes terroristes sous prétexte que des militaires auraient été décapités et leurs armes emportées à Sokolé. Et là, selon des informations, le pouvoir est en train de faire du lobbying, surtout auprès des États-Unis. Est-ce que vous avez une réaction, Moussa Sifou?
Amos, oui, le mot terrorisme est devenu le buzzword pour cet Iran. Qui veulent justifier leur mainmise sur le pouvoir, ils veulent justifier leur refus catégorique de voir les changements s'opérer dans leur pays. Donc, fort et son régime ne dira pas à la règle. Et donc, ils pensent qu'en utilisant le mot terrorisme, non seulement ils pourront effrayer le peuple togolais et pour leur imposer un silence total, mais en même temps, ils pensent aussi s'attirer la sympathie de la communauté internationale. Mais ce que ces gens-là oublient, c'est que maintenant tout le monde les connaît. Quel diplomate en service au Togo n'a pas été roulé dans la farine par ce régime-là, du fait de sa duplicité, du fait de son non-respect à la parole donnée, de sa malhonnêteté. Non, tout le monde sait ce qui se passe. Maintenant, ils peuvent fabriquer des dossiers, envoyer partout, tout ça là. Personne ne les croit. Non. Les gens les connaissent très bien. Ils ne sont plus pris au sérieux. Tellement ils manquent de crédibilité que aucun État digne de ce nom ne va prendre un document de ces gens-là et va essayer de croire à ce qui est mis dedans. Non. Ils sont assimilés au mensonge, comme ils le font. Donc, ils l'ont fait, c'est un exercice, ouais, et ils l'ont fait comme s'ils ont eu un exercice, mais cela ne va rien donner. Nous sommes rassurés à plus d'un titre ici, en tout cas aux États-Unis, que personne ne va écouter ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont perdu tellement de crédibilité que cela ne va plus marcher. Et donc, s'ils ont une autre stratégie diplomatique, ils peuvent l'utiliser, mais mentir que les aspirations du peuple togolais sont inspirées par un penchant terroriste. Et moi, je pense que cela fait rire. Ils ont, au moins le Togo, le régime a, c'est pas en sa faveur, les services de secret israéliens, qui sont l'un des plus puissants services de renseignement au monde. Mais ils auraient pu leur dire, écoutez, vous avez une menace terroriste qui arrive. Les États-Unis auraient pu leur dire. Mais s'ils veulent maintenant, un aveugle veut maintenant dire, au voyant que voilà, l'argent, voilà, j'ai retrouvé ton argent et c'était derrière toi, tu n'as pas vu, moi j'ai vu ça. Et là, ça devient ridicule. Moi, je pense que le régime togolais, en voulant produire ce dossier-là, s'est encore enlisé dans la honte, puisque les gens se moquent d'eux à cause de leur mensonge permanent. Les gens les connaissent maintenant et personne ne les prend au sérieux. Moi, je pense qu'ils peuvent crier comme ils veulent. Mais au contraire, ce que moi je pense, si l'État tient vraiment au mot terrorisme, il faut que l'État regarde sous ses pieds tous les comportements qu'ils ont montrés à la face du monde, c'est des comportements terroristes. tout ce qu'ils ont fait dans les villes de l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la terreur. Ce qu'ils ont fait à Gouzou et son groupe le week-end passé, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. C'est ça qu'on appelle terrorisme. Moi, je ne sais pas, moi, je ne connais pas vraiment la définition que l'État togolais donne au mot terrorisme. Et peut-être c'est la méconnaissance de la définition du concept qui fait que, et ils veulent utiliser ça un peu partout, ou bien karma, ils font preuve d'une mauvaise foi, c'est pas une mauvaise foi inqualifiable. C'est tout ce que moi je peux dire. Parce que c'est eux qui posent des actes terroristes en faisant en sorte que des populations ne puissent pas dormir chez elles, en faisant en sorte qu'on puisse avoir près de 700 exilés au Ghana. Ces exilés-là ont fui la terreur. Et ils étaient des victimes du terrorisme d'État. Maintenant, ce n'est pas l'État togolais qui va donner des conseils en matière de terrorisme, ou bien qui va faire formuler des accusations en matière de terrorisme envers le peuple togolais. Moi, c'est vraiment faire preuve d'une mauvaise foi. Parce que c'est l'État plutôt qui sème la terreur au sein des foyers, des familles du Togo.
Moussa Issoufou, votre réaction est très très pertinente. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien. 13 janvier 1963, 13 janvier 2018, c'est qu'en 5 ans d'obscurité sur le Togo après l'assassinat du père de l'indépendance, et là la coalition annonce une manifestation demain samedi. Ainsi donc, la mobilisation doit continuer.
Amos, bien sûr que la mobilisation doit continuer. La mobilisation doit continuer. Parce que la victoire du peuple togolais est proche. Moi, je profite d'ailleurs de l'occasion pour lancer un appel vibrant à notre vaillant peuple togolais, à toutes les populations des villes et campagnes du Togo, à tout le monde, étudiants, mécaniciens, chauffeurs, enseignants, qui sèche encore, tous les Togolais doivent sortir samedi pour accompagner cette marche. C'est une marche ultime. Il faut que tout le monde soit. C'est pas dehors. Tout le monde doit être dehors, dehors samedi pour marcher. Tout le monde doit sortir et pour prouver au monde entier que le changement est inévitable au Togo. Et c'est comme ça. Moi, c'est mon souhait d'ailleurs. Donc, la lutte doit continuer et on ne doit pas reculer. Il n'y a même pas de raison de reculer. Il n'y a même pas de place. C'est pas qu'on peut occuper si on reculait. Il n'y en a plus. C'est pourquoi la lutte doit continuer. Elle doit continuer et elle doit aboutir à la réalisation des aspirations les plus légitimes du peuple togolais, c'est-à-dire l'alternance au sommet de l'État. Donc, vaillant peuple togolais, et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire, monsieur Amos, que ce n'est pas seulement au Togo que les gens vont marcher le 13 janvier. Non. C'est dans tout le monde entier. Aux États-Unis, nous allons marcher de la Maison-Blanche au Capitol Hill. C'est l'Assemblée, le lieu du Sénat et du Congrès américain. Nous allons faire ce trajet-là. Nous allons manifester à la Maison Blanche et nous allons maintenant marcher de la Maison Blanche au Parlement américain, au Congrès. C'est comme ça. C'est pour vous dire que les gens sont déterminés. au Canada, les gens vont marcher à Ottawa et à Toronto. En Europe, les gens seront là, à Bremen et partout. En France, les gens marcheront. Donc, moi, je pense que vraiment, il faut se dire que nous sommes vraiment satisfaits du degré de mobilisation du peuple togolais. Et comme nous l'avions promis, nous avons promis au peuple togolais que la diaspora, sa diaspora sera toujours à ses côtés. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Tiens-toi bien, il y a déjà eu deux marches ici aux États-Unis où nous avons marché dans la neige. C'est aussi une fois encore une façon de prouver notre détermination. Donc si l'adversaire compte sur un quelconque essoufflement, là c'est lui qui va s'essouffler dans son attente de l'essoufflement des manifestants. C'est comme ça. Alors moi je pense que le peuple doit continuer la lutte et elle doit aboutir. Cette fois-ci, il faut conclure cette lutte-là. Elle a trop duré. 50 ans d'espérance, 50 ans d'attente, c'est trop. Ça fait quand même un demi-siècle. C'est pourquoi, pour ma part, je pense que les manifestations doivent continuer et doivent continuer parce que si on ne les poursuit pas, on aurait commis une grosse erreur. Donc les manifestations doivent se poursuivre. Elles doivent continuer. J'exhorte le peuple togolais à être encore plus courageux et à se dire que personne ne viendra lutter à ma place et que je suis le seul responsable de ma liberté. Ça, soyez-en sûrs, la victoire sera du côté du peuple, puisque la cause que le peuple défend est noble.
En tout cas, merci beaucoup, Moussa Issifou. Je rappelle à nos auditrices sur Radio Avolecté, Kukulte Dinta, que vous êtes le porte-parole de la CEMAD, coordination des mouvements et associations de la diaspora togolaise. Merci et bonsoir. Avolecté, Kukulte Dinta.
Je vous remercie.
Radio Avolecté, la voix de la résistance du peuple togolais.
Et bien voilà, fidèles amis auditeurs, auditrices de Radio Canal K et ses radios partenaires FM Liberté, Radio Deniguan, Radio Avolecté, Kukulte Dinta, la voix de la résistance du peuple togolais. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuation de programme sur nos radios partenaires, notamment Radio Avolecté. Merci et bonsoir.
Ah oui, Foukwekwe Anoussassin, Togo Viomiga, Bojo. Papa Siva le tien, grand ami Benou Lagno. Foukwekwe Anoussassin, Togo Viomiga, Bojo. Tavi Amourin le tien, grand ami Benou Lagno. Enou la nyo, togo ju kwa nan nyo a, be ye jime mi le a. Trotro ye ya ne va, ne ju me vyo a kwa vovo, ye jime mi le a. Awe, fukpekwe anu sesen, togo vyo mi kak bojo, papa silva le chen, blona mi be nou la nyo. Fukpekwe anu sesen, togo vyo mi kak bojo, ta vu amourin le tien, bon ami, bon nous l'agneau. Nous l'agneau, ao nous l'agneau. Nous l'agneau, ao nous l'agneau. Togo du coin, nous l'agneau, boye jime mi le a. Trotro ye ya ne va, ne du me vio a kwa vovo, ye jime mi le a. Awe, togo vio benya, me be tu kalame le me kafio. A ense benya, me nye tu benya mi revio. Nya we nya blode via o ne tu di ha mi me vona o. Nya we nya blode via o. Di kare ha ma sumi o. Mi na mi a ya vwa di gbak le koutri kuku a. De ka o. Be do do la gbak le ma o yo yo a. Gbe nou la vake. Mi la do le me a.